quartier, c'est déjà cette posture. Les enfants réclament, grandit, ils revendiquent.
Moi, j'entends revendication comme un objectif de lutte.
Mais tu vas voir, on va se donner le coup, ça va être un contre-emploi parfait.
Bon, ah, formidable. À ma gauche, Frédéric Lordon. À ma droite, Jean-Pierre Mercier. Alors, je vous présente rapidement tous les deux. Je vais commencer par Jean-Pierre Mercier, qui est délégué CGT du groupe PSA, Peugeot Citroën, numéro 2 de LO, de lutte ouvrière, et qui a été coordinateur et porte-parole de la grève menée depuis 2013 contre la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois. Et aujourd'hui, tu es à PSA Poissy, oui, dans les Yvelines, et tu es toujours délégué CGT du groupe PSA.
Oui.
Voilà. Militant ouvrier, ça te va ?
Oui, alors juste, j'aurais à te dire que... Aujourd'hui, je n'interviendrai pas en tant que au nom de la CGT PSA, ni au nom de la CGT tout court. J'interviendrai en tant qu'ouvrier, communiste, révolutionnaire, militant de lutte ouvrière.
D'accord. Voilà pour la présentation de Jean-Pierre Mercier et puis Frédéric Lordon. Est-ce qu'il faut... Oui, on va le refaire. Économiste hétérodoxe, écrivain, écrivain, non ? Philosophe ?
Non, vas-y, pas écrivain. Mais un jour, j'ai fait une pièce en vers de Mirliton. Ça ne suffit pas à se déclarer écrivain.
Bon, philosophe, ça va.
Administrativement, c'est juste.
Ouais, ouais. Et te voilà maintenant agitateur de Nuit Debout.
Ouais, mais non, la Nuit Debout a besoin de personne pour s'agiter toute seule. Elle s'agite très bien comme une grande.
T'as été poussé sur la scène dans cette histoire, en quelques mots.
Les deux se sont produits. C'est, quand même, je ne vais pas non plus me cacher derrière mon petit doigt. J'ai fait partie des gens qui, à partir du mois de janvier, ont commencé à se dire « ça serait bien qu'on fasse quelque chose ». Il faudrait qu'on en passe par un mouvement d'occupation pour court-circuiter tous les appareils partisans et en gros toutes les institutions présentes. Et on pourrait faire ça par une projection sauvage de « Merci patron à la République ». Voilà, donc je me suis retrouvé au commencement de cette affaire. Et puis après, il y a quelques dizaines de personnes qui ont travaillé, comme des chiens, hein, il faut le dire, pour que le 31 y ait quelque chose. Bon, et puis le 31, oui, j'ai pris la parole, là, plus poussée qu'autre chose, puisque l'espèce de proto-comité informe qui organisait le truc m'a demandé de le faire.
Je voudrais que vous vous situiez tous les deux. Est-ce que tu te vois, toi, Frédéric, dans le rôle de l'intello face au monde ouvrier ? Est-ce que c'est ça ? Parce que c'est quand même une constante. D'un côté, la Sorbonne, de l'autre côté, Sochaux. Hein ? D'un côté, Bourdieu, et de l'autre côté, les manifestants contre Juppé. Il y a quand même toujours ces deux figures. Est-ce que vous incarnez là ces deux figures ? Est-ce que tu es d'accord pour ça ? Ou tu dis, moi, je ne suis pas un intello, Mercier, c'est un intello aussi, etc. J'attends que tu dises à peu près ça.
Ben non, là, je vais te décevoir. Comment dirais-je ? Les lois de la sociologie s'appliquent à tout le monde, tu vois, et à moi comme aux copains. Je suis universitaire, je suis au CNRS... Je ne vais pas commencer à m'inventer des identités lyriques et fictionnelles. Je suis ce que je suis. Et on ne saute pas comme ça par-dessus sa condition sociale. Je n'ai aucun problème avec l'étiquette de l'intello, quoique les gens qui la reçoivent en face, tu vois, pour le meilleur ou pour le pire. C'est comme ça, c'est ce que je suis. Bon, alors, à ceci près que peut-être j'ai plus que mes chers collègues universitaires le désir que la fonction de l'intellectuel serve à quelque chose en politique, ce qui suppose d'aller à la rencontre... de ce qui se passe quand il se passe quelque chose.
Jean-Pierre Mercier, dans un entretien avec Arrêt sur Image, tu as dit, mais je crois qu'on n'est pas du même monde. Tu parlais de Lordon, tu parlais de ce monde. J'ai l'impression qu'on n'est pas du même monde. Tu as dit ça sur un ton tout à fait cordial, hein, pas du tout agressif. Mais enfin, quand même, est-ce que tu...
Moi, je suis ouvrier. Frédéric est universitaire. Et ça, ce n'est pas un souci en soi. Des intellectuels, tu sais, si on reprend l'histoire... Marx, Lénine, Trotsky, Engels n'étaient pas des ouvriers et ils étaient des intellectuels, des grands intellectuels, ils étaient surtout des militants. Après, intellectuel en soi, alors là vraiment pour moi sincèrement, c'est absolument pas un défaut, au contraire. Après, ça dépend des idées qu'on défend. Voilà, tout est là. Maintenant, sur ma phrase « on est dans deux mondes différents », c'était en réponse par rapport aux journalistes de Radio France qui parlaient de Twitter, qui parlaient de Periscope, qui parlaient de Facebook, enfin des réseaux sociaux, et qui en mettaient des tonnes et des tonnes là-dessus. Et je lui avais répondu « c'est pas Periscope qui va foutre la trouille à Valls ».
T'as voilà. dit « c'est pas Twitter et Facebook et Periscope qui vont leur foutre la trouille ».
Ce sont des moyens de communication importants qu'il faut évidemment utiliser. On serait très bête de ne pas les utiliser face au pouvoir. Mais en tout cas, c'est pas ça qui fait naître le rapport de force et qui construit le rapport de force.
Jean-Pierre, par rapport au mouvement Nuit Debout, bon, évidemment, Twitter, Facebook, tu penses que c'est pas avec ça qu'on va leur foutre la trouille, tu penses que c'est avec la grève, c'est les usines qu'il faut occuper, non pas la place de la République, tu le dis et tu le répètes, c'est ça ?
Par rapport à Nuit Debout, au mouvement Nuit Debout, j'ai toujours dit, et je le pense encore, c'est très bien ce qui se passe. Moi, je m'en réjouis qu'une partie de la population se mobilise d'une certaine façon. Après, moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus que pour changer le rapport de force fondamental, global, dans la société, c'est quand la classe ouvrière, quand les travailleurs se mobiliseront avec une détermination extrême, en s'organisant et en utilisant leurs armes, les manifestations de masse, les manifestations de rue et la grève. Oui, ça c'est. Je peux très bien même dire que s'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui occupaient la place de la République, la place de la Bastille, la place de la Nation, les grandes places des grandes villes en France, des dizaines de milliers de personnes, ça poserait un problème au pouvoir, ça poserait un problème à Valls. Et peut-être que Valls pourrait reculer sur la loi travail. Mais fondamentalement, ça ne changerait pas le rapport de force. Le rapport de force face au patronat et face au gouvernement, il y a cette classe sociale qui a quelque chose de spécifique dans la société, c'est qu'elle produit toutes les richesses et qu'elle est au cœur du système. Elle est tout. C'est elle qui produit toutes les richesses, c'est elle qui fait fonctionner l'économie, c'est elle qui crée la plus-value, c'est elle qui crée le profit, c'est elle qui enrichit cette classe, les possédants, ce que moi j'appelle la bourgeoisie, les familles Peugeot, Bettencourt, Bernard Arnault et compagnie. Et c'est elle qui a le pouvoir de faire changer les choses dans la société. C'est pas les lycéens, c'est pas les étudiants, c'est pas les paysans, c'est pas les chauffeurs de taxi, c'est pas les enseignants, c'est les travailleurs qui peuvent changer fondamentalement les choses dans cette société et qui peut entraîner l'ensemble de la société à la changer fondamentalement.
Frédéric, tu es d'accord ?
Oui, complètement. Et d'ailleurs...
Vous êtes en train de me faire foirer mon
oui,
truc.
Ça, on va...
Non, il y a un moment donné, on ne va pas être d'accord.
je suis vraiment d'accord et il faut que je dise un mot qui semblera avoir un caractère personnel alors que non. Voilà, bon. Moi, en ce moment, je refuse, enfin depuis le 31 mars, je refuse toutes les sollicitations médiatiques. Absolument toutes en France. Bon. Il n'échappe à personne que tu es un média français. Et donc, je fais une exception en l'occurrence. Je ne la fais que parce que tu m'as proposé de dialoguer avec Jean-Pierre Mercier. Je fais partie de ceux qui, à la Nuit Debout, pensent que la connexion avec les salariés et avec les organisations syndicales est vitale. Et je le crois par une espèce de syllogisme extrêmement simple, mais que je pense imparable, et qui dit la chose suivante. Nous nous sommes donné une espèce de mot d'ordre pour la Nuit Debout, qui est renverser la loi El Khomri et son monde. Mmh. Un objectif qui est gigogne, hein, tu vois. En fait, c'est plusieurs objectifs échelonnés, hein, entre la loi tout court à faire péter et renverser le monde qui réengendre continuellement des lois El Khomri ou leurs équivalents année après année, il y a une marge. Mais donc, on peut se donner cette gradation d'objectifs. Si on prend au sérieux les objectifs les plus ambitieux, renverser le monde qui génère des lois El Khomri, alors il est évident que ceci ne peut en passer que par un mouvement populaire de masse. Donc, par une mobilisation des salariés, donc par le contact avec les organisations de salariés. C'est aussi simple que ça.
Il y a un mot qui vous a bloqué, c'est quand tu as dit « nous ne revendiquons rien ». Alors, Frédéric, tu es revenu là-dessus parce que tu t'es aperçu que ça pouvait être interprété d'une façon que tu ne souhaitais pas. Hein, mais je voudrais que vous reveniez là-dessus parce que ça, Mercier, il a dit « ah ben non, moi je suis un syndicat, je passe ma vie ». Et on le voit dans le film comme des lions. Effectivement, les gars, ils revendiquent. Alors, ils revendiquent dans ce cadre-là. Et toi, tu dis, on ne veut pas, il ne faut pas revendiquer dans ce cadre-là, il faut construire un autre cadre. Développe un peu ça.
Mais je ne sais pas, peut-être Jean-Pierre...
Pourquoi tu as pris ça de travers ?
Je vais répondre, mais une première nuance entre nous, et je pense que c'est plus qu'une nuance, c'est un désaccord qui peut révéler une vraie frontière. Tu vois, quand tu dis il faut une connexion avec les organisations syndicales, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et pourtant, je suis militant syndical. Tu vois, je suis la CGT, pas de souci là-dessus. Voilà. Mais si tu restes dans le prisme des organisations syndicales pour démarrer une grève générale ou pour entrevoir une grève générale, tu fais, je pense, une erreur profonde. Moi, tu sais, j'ai beau être délégué CGT, à l'usine, je m'adresse à tout le monde. Et surtout à la grande masse des salariés, 92% des salariés qui ne sont pas syndiqués. Et bien que je suis à la CGT, je suis extrêmement méfiant des directions nationales des centrales confédérales. Et quand j'entends à Nuit non, Debout...
Non, aussi, hein. Oui, vas-y, vas-y.
Oui, mais alors dans ce cas-là, on n'appelle pas à discuter avec les grands dirigeants confédéraux ou avec tous les dirigeants de toutes les structures. Voilà. Si tu veux, moi, j'ai appris juin 36, comment ça s'est passé. Je l'ai étudié parce que je suis militant. Et juin 36, ce n'est pas la CGT qui l'a déclenché. Ce n'est pas Léon Blum, ce n'est pas le Front Populaire. Ce sont les travailleurs qui ont déclenché la grève, qui se sont mis en grève, qui ont mis en avant des revendications dont Léon Blum n'avait même pas osé les mettre dans son programme électoral, entre autres les congés payés, par exemple. Et il y a eu occupation d'usines. Et c'est les dirigeants du Parti communiste, du Parti socialiste et de la CGT qui ont mis tout leur poids pendant des semaines et des semaines pour faire reprendre le travail, parce que là, ça allait trop loin.
Il faut savoir arrêter une grève.
La fameuse phrase de Maurice Thorez, il faut savoir arrêter une grève, les
quand
gars.
Quand on a obtenu satisfaction, n'oublie jamais la suite de la phrase.
Oui, mais là, on pouvait largement aller plus loin. Et c'est ça le drame. C'est que quand on en appelle aux syndicats à diriger quelque chose, ça veut dire que, je pense fondamentalement, on ne fait pas confiance aux travailleurs. Et moi, je fais partie de ceux, et on l'a vécu pendant 4 mois, pendant la grève d'Aulnay, où ce n'était pas la CGT qui dirigeait. On a toujours réfléchi ensemble, avec les non-syndiqués.
Vous le dites dans le film, on le voit.
Bien sûr. Ça ne nous est même jamais venu à l'idée de réunir la CGT à part pour discuter de la grève. On aurait pu, on s'est toujours refusé. Parce que j'ai une confiance inébranlable dans la capacité des travailleurs à se mettre en branle, à se mobiliser, à réfléchir, à décider et à agir. Parce qu'on discute pour agir. Et tu vois, là, je suis un tout petit peu long, mais ça mérite un petit développement. Tu vois, quand Ruffin fait appel aux organisations syndicales et à toutes les manifestations se finissent à République. D'abord,
tu parles du 1er mai, là, du projet.
Je parle du 1er mai, mais toutes les manifs, celles du 28, etc., se finissent à République. Je trouve d'abord qu'il faut avoir un peu une humilité. Faut pas trop avoir de prétention. Ça peut choquer. Quand tu rassembles 50, 60 000 personnes et que tu leur dis à ces 60 000 personnes, il faut venir chez nous, à Place de la République, parce qu'on est 2000, mais on va vous dire comment faire. On va vous dire comment aller plus loin, comment s'organiser pour faire péter le système. Si tu veux, non, moi j'aurais été Ruffin. J'ai dit, mais bon Dieu, on va à Bastille, on va à Nation, à chaque fois où les manifs se finissent, on les accueille, on leur tend la main, etc. Si c'était vraiment s'adresser aux travailleurs. Mais je suis pas sûr qu'il ait ça dans la tête, Ruffin. Et puis derrière, si tu veux, oui, il faut savoir que les travailleurs, quand ils se mettent en grève, quand ils se mobilisent, il y a une énergie monumentale qui peut se dégager, qui se dégage forcément. Et du coup, il faut une organisation pour faire en sorte que cette énergie, elle se transforme en action efficace pour faire reculer ce qu'on a en face de nous. Alors après, faire péter le système, oui, moi je te réponds tout de suite, je suis pour faire péter le système, je suis pour renverser le capitalisme. Et ça ne peut être que l'œuvre des travailleurs, de la classe ouvrière qui pourra le faire.
Non, mais le désaccord n'est pas si grand que ça, et peut-être que j'aurais à plaider l'erreur, mais tactique, mais par méconnaissance. En fait, tu m'as eu parce que, en quelque sorte, par diplomatie, je t'ai pas livré immédiatement le fond de ma pensée. Ah. Et en pensant que je m'engageais...
Faut toujours avancer visage découvert.
Oui, mais en faisant attention aussi à la sensibilité des personnes qu'on a en face de soi. Bon, alors, moi, en réalité, je sais ce que je pense des directions confédérales. Je pense qu'il y a un bout de chemin à faire avec elles, mais dans le cadre d'une sorte d'alliance objective, comme on disait à l'époque. Sachant que, au bout d'un moment, se manifestera le point de conflit, le point de contradiction, et que les intérêts redivergeront. Et je ne sais que trop, comme toi, que les directions confédérales sont des institutions prises dans le système institutionnel, ont des intérêts à y défendre, et en particulier n'éprouvent pas du tout l'intérêt de renverser le système institutionnel dont elles sont un élément. C'est la raison pour laquelle, quand on dit faire sauter la loi El Khomri et son monde, on sent bien que sur faire sauter la loi El Khomri, il peut y avoir un bout de chemin à faire ensemble, et que, rêvons un peu, hein, si jamais on y arrivait, c'est là que les choses se mettraient de travers. Toi, tu parles de 36. Moi, j'ai deux images en tête qui sont de mai 68, ou plus exactement de mai et de juin. La première, c'est le 27 mai 68. Ségui sort de Grenelle avec les accords en poche. Il va à l'île Seguin et il est, je ne sais pas si tu te souviens de l'image, il est sur cette coursive, puis il y a tous les ouvriers en bas et il leur dit « Voilà ce qu'on a obtenu, on a eu beaucoup, maintenant on va arrêter la grève. » Et en bas, ça dit « Non, on continue. » Et là, panique à bord, quoi. Et panique à tous les étages. La Confédération, le gouvernement qui voit que la Confédération ne tient plus les troupes, etc., etc. Et ça, c'est une image qui est extrêmement puissante. Et il y en a une autre que tu connais encore mieux. Elle date du... Je me suis renseigné parce que je ne me souvenais pas. Elle date du 9 juin. C'est ces 3 minutes ou 5 minutes de la séquence inaugurale du film Reprise, tu sais. Voilà, les usines Vondère. Où t'as le délégué qui est là, qui dit « Ouais, on a beaucoup obtenu, on a beaucoup gagné, maintenant il faut y aller. » Et la femme qui dit « Non, je ne retournerai pas dans cette tôle, ça pue, c'est dégueulasse, je ne veux pas y aller, bon, etc. etc. » Ouais. Voilà, donc ça c'est l'état des forces, et il faut faire quelque chose avec.
Dans la matinée du 10 juin 1968, après 3 semaines de grève et occupation d'usines, les ouvriers de Vondère, à Saint-Ouen, réunis par leur patron, ont voté la reprise du travail par 560 voix contre 260. Le jour même, à 13h30.
Vous gagnez votre vie, mais nous on la gagne pas, le fils.
Ils sont enregistrés, ça.
Oui, je travaille chez Vondère, justement.
Deux points.
Là, ça a l'air. Le tonnier,
vous l'avez mis en échec.
Tous les points. Hein. Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver. C'est peut-être vrai. C'est
bon. On a rien avec ce mal à moi de vacances.
C'est
tout ça que
t'as mis. C'est engagé. Il a reculé.
Il est tellement.
Il a reculé, mais ça sera à nous de rester.
La jeune ouvrière a pour interlocuteur deux membres du bureau local CGT de Saint-Ouen.
Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer.
Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein. Faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce qu'elle cherche à faire, de toute façon,
pas,
alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver, l'imposer.
Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir.
C'est pas fini. C'est bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait profil.
C'est pas fini, c'est une étape.
Il a dit chez Vondère, ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, moi, il faudra qu'il travaille.
Vous l'avez dit, ça.
Ils y veillent.
Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies.
On le sait, on le dénoncera. On le dénoncera, mais on peut pas tout.
Bon, ben, il faut pas tout avoir d'un seul coup. On peut pas l'avoir tout d'un seul coup. C'est une étape.
Et saboté le vote, oui. Ils ont fait ça à la saloperie, oui.
Le vote qui a été fait ici a été dépouillé sans un seul représentant.
Oui, d'accord. Il y a eu des pressions vis-à-vis du personnel nord-africain.
Le patronat a fait dépouiller le vote avec lui.
Mais bien
c'est une victoire, tu entends.
Mais il faut quand même voir, moi je regarde quand même que le patronat, il était
amené. Ils ont reculé.
Le salaire, ils ne voulaient pas en entendre parler.
Il augmente de 10%.
Les paiements et récupérations des jours d'arrêt de travail, le coût des vacances, qu'ils voulaient vous faire travailler votre semaine de vacances, il a fallu qu'il recule.
50% de la valeur des heures perdues.
Hein, alors il y a encore des trucs à gagner. La réduction du temps de travail, il a admis.
Ah, mais pourquoi tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer. Hein.
Pas tous les travailleurs.
Ça, c'est
ça. Non, mais il y en a pas mal.
Les travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité bien conscients de ce qu'ils ont fait. Bien conscients de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est conscient.
Il y aura des représailles. Imagine toi sa place, elle vient de gueuler maintenant.
Mais représailles. À une seule condition, c'est qu'il y ait une section syndicale forte qui veille.
Ils en ont une.
Avant, il n'y avait rien chez Vondère. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent.
Mais peut-être as-tu raison, et peut-être que je me trompe. C'est-à-dire d'en appeler trop évidemment aux directions confédérales, c'est peut-être une erreur tactique, etc. Moi, je ne parviens pas à m'ôter de l'idée que quand même, elles conservent un pouvoir de mobilisation, pourvu en tout cas qu'on leur mette la pression. C'est ce qui s'est passé le 9 mars. Pression qui est venue alors d'un tout autre secteur de la société française, soit les youtubeurs, la pétition de Caroline Dehaas, etc., mais qui a quand même créé quelque chose qui a débouché sur un début de mobilisation que les syndicats ne pouvaient pas ne pas suivre. Bon, alors, je pense que c'est dans ce genre de dialectique que s'agence une mobilisation d'ensemble.
Jean-Pierre.
Les deux images que tu cites, de mai 68 et de juin, 30, et de juin 68, disons, moi j'ai un problème avec juin 36, mais c'est exactement pareil que juin 36, tu as raison. Le problème, c'est que quand on arrive à ce moment-là, pourquoi ça s'arrête et pourquoi ça continue pas? Et ouais, c'est ça, le nœud de l'histoire.
Absolument.
Moi, mon problème n'est pas de savoir est-ce que ça va péter ou pas, est-ce qu'il va y avoir une explosion sociale ou pas. Moi, j'en suis convaincu qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une explosion sociale et que ça va démarrer. Mon problème en tant que militant, c'est de faire en sorte que quand ça va démarrer, il faut deux choses essentielles à mes yeux. D'abord, qu'on se dote d'une organisation du mouvement qui soit la plus démocratique possible. Et deuxièmement, c'est quel objectif on peut proposer aux travailleurs pour se battre et essayer de discuter quels sont les adversaires et contre qui et contre quoi il faut se battre. Tu parles toujours du système institutionnel. Moi, le système institutionnel, je vais peut-être un peu être barbare, mais je m'en fous, c'est pas ça mon problème. Moi, c'est le système capitaliste. C'est le fait que le pouvoir dans la société, il est aux mains de possédants, les 200 familles ou les 300 familles, on va les appeler comme ça, le 440, les actionnaires du 440, et c'est contre eux qu'il faut se battre, et on ne pourra le faire que quand les travailleurs, ils auront conscience qu'ils peuvent gérer la société. C'est pour ça qu'occuper les usines, c'est un double avantage.
Ça,
à la
ça
fois,
préfigure.
C'est à la fois bloquer la pompe à profit, la pompe à fric, ça c'est net. C'est un moyen de chantage sur les patrons. Mais c'est aussi faire en sorte que les travailleurs touchent du doigt comment on peut gérer eux-mêmes
ça,
les entreprises.
C'est les images de 36, là.
Bien sûr. Bien sûr que c'est les images de 36.
Les gars entretiennent leurs machines parce que c'est à nous, c'est ça le truc.
Et c'était, hein, et c'était peut-être la seconde phase.
On casse pas les machines, on les bien sûr.
Et on les fait tourner à notre profit et on gère la société. Alors, t'en as pas encore parlé, mais j'ai écouté, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu ce que t'as pu écrire. On a quand même le sentiment et la conviction que pour toi, tout tourne autour des problèmes constitutionnels et qu'à partir du moment où on arrive à écrire dans la Constitution l'abolition des moyens privés de production, etc., les malheurs des travailleurs sont résolus. Je pense que la société ne fonctionne pas comme ça. Et que la famille Peugeot, par exemple, ou les Bettencourt, ou les Bernard Arnault, il y a beau avoir dans la Constitution l'abolition privée des moyens de production, ils ne vont jamais laisser leurs usines.
Donc on en arrive à la fameuse phrase prononcée par Frédéric, nous ne revendiquons rien, parce qu'il veut d'abord changer le cadre, c'est ça?
Alors attends,
Frédéric,
je veux
oui
dire,
ou non
je, oui, c'est ça, mais on ne fait que retarder, c'est le supplice de Tantal, hein, la question de la revendication, de savoir si on revendique ou pas, mais je voudrais juste dire une chose sur la question de la Constitution et dénouer peut-être un malentendu, mais de vocabulaire avec ce que j'entends par système institutionnel. Je donne à ce mot-là une signification extrêmement étendue, hein, au sens le plus large du mot institution. C'est pas simplement les institutions politiques de la Ve République, c'est les institutions médiatiques, les institutions du droit dans tous ses étages, les institutions européennes. C'est vraiment l'ensemble du complexe institutionnel qui fait l'armature du capitalisme néolibéral. Alors là-dedans, il y a cette histoire de constitution. Alors, il faut en dire un mot tout de suite, parce que cette proposition d'une constituante peut être lue de plusieurs manières différentes. Il ne m'échappe pas qu'un processus constituant qui conduirait à l'abolition par voie juridique, sous la plus haute norme juridique, du principe de la propriété privée des moyens de production ne peut pas tomber du ciel. Et que ce n'est pas simplement une joyeuse bande ou un atelier d'écriture constitutionnelle qui va aboutir à ça. Si on prend la chose rigoureusement et qu'on l'envisage concrètement, dans les faits, un processus constituant de cette nature ne peut être que la consécration d'un processus révolutionnaire, avec tout ce que ceci implique. Alors la question c'est, mais pourquoi en parler maintenant alors qu'aucune des conditions d'un processus révolutionnaire n'existe apparemment ? Ce qui ne m'a pas échappé non plus. Et la réponse est précisément pour commencer à en parler. Je sais bien que la constituante passée dans les faits n'est pas à notre portée et que c'est un objectif qui est extrêmement lointain. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a des choses dont nous avons arrêté de parler, je parle là depuis les 30 dernières années, tu vois, et dont il faut recommencer à parler pour les installer dans le débat public et que cette idée soit reprise, martelée avec une insistance qui la rende presque exaspérante et qu'on ne puisse plus regarder ailleurs. Donc il s'agit de mettre un problème à l'ordre du jour du débat public et de lui faire faire son chemin. Quant aux conditions réelles de son débouché et de son passage au concret, ça, je ne me raconte pas d'histoire à ce sujet, bien sûr.
Et c'est là où on n'est pas d'accord. Parce que moi, quand je t'entends, place de la République, voilà, tu parles de la Constitution. En gros, tu es en train de me dire que tu parles en fait de la fin. Bah, dans la vie, il faut commencer par le début. Donc il faudrait commencer, et si tu es d'accord avec ça, il faudrait que tu le dises, que la société, elle est divisée en deux classes sociales distinctes. Bon, la classe ouvrière et puis les possédants, la bourgeoisie. Et tant que les travailleurs n'auront pas pris le pouvoir politique pour réorganiser la société, pour réorganiser l'économie, rien ne pourra changer. Rien ne pourra véritablement changer. Changer la Constitution, j'entends que tu me dis, en fait, c'est le résultat d'un processus révolutionnaire. Bah, écoute, c'est la première fois que je t'entends parler comme ça.
Mais Jean-Pierre, c'est parce que tu...
Et je t'ai jamais lu comme ça. Tu as jamais écrit comme ça. Alors, j'ai peut-être pas tout lu ce que tu as écrit. Sûrement, d'ailleurs.
Le nom nouveau est arrivé. Alors,
peut-être, peut-être. Mais en tout cas, tu vois, parler tout le temps de Constitution... écoute, je ne suis pas un lapin de 6 semaines non plus. Tu en fais un objectif. Tu en fais un objectif final, d'accord. Bah, moi, l'objectif, les objectifs de lutte que je pourrais proposer à l'ensemble du monde du travail... C'est répondre aux problèmes qui leur sont posés aujourd'hui, bah, le chômage, les salaires, etc. Mais des objectifs de lutte qui pourraient permettre, s'ils étaient imposés, faire reculer durablement les patrons et les gouvernements, mais aussi, tu vois, quand on met en avant l'interdiction des licenciements, interdire aux patrons de licencier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu rentres dans les choix de l'entreprise. Ça veut dire que tu imposes tes vues, tu imposes tes exigences dans le choix des conseils d'administration. Ça veut dire que tu commences à contrôler ce qui se fait. Quand on dit ouverture des livres de compte, il faut que les comptabilités soient ouvertes au grand jour de toutes ces grandes entreprises, qu'on sache le pognon où il va, notre pognon qu'on a fabriqué. Oui, là, on commence à instituer un contre-pouvoir ouvrier. Et c'est ça qui fait que, derrière, on pourrait faire prendre conscience que les travailleurs bah, ils puissent gérer entièrement la société du début jusqu'à la fin. Moi, et après, si tu veux, quand réellement l'ensemble des travailleurs auront en main la totalité de la société, on pourra, si tu veux, écrire au coin d'une table une constitution en bonne et due forme. Mais je t'assure que c'est pas le premier problème.
Tu te doutes que c'est pas dans des interventions qui sont calibrées entre 5 et 10 minutes que je peux livrer la totalité de mon analyse sur ces questions.
Bon, d'accord, mais commence pas par la fin.
Non.
Parce que tu choisis de parler de la Constitution.
Mais je n'ai pas commencé par
la fin. Il est
jaloux
de Chouard. Son grand truc, il veut être Chouard, maintenant.
le coup de pied de l'âne. Ouais. On fait une parenthèse pour que ceci soit réglé. Hein. Derrière le droit, il y a toujours un rapport de force. Ceci est tout à fait clair. Maintenant, puisque tu parles de Chouard, je ne veux pas laisser passer... Note en bas de page. Le problème de Chouard, si tu veux, c'est qu'il a dérivé tellement loin à frayer avec des gens d'extrême droite qu'il a fini par ruiner sa propre cause et qu'il s'est rendu, à mes yeux, comme aux yeux de beaucoup d'autres personnes, tout à fait infréquentable. Et moi, je le connais depuis un certain temps. Je l'avais vu commencer à dériver très tôt, en 2007 ou 2008. Je me souviens de lui avoir passé une avoinée avec un copain qui s'appelle Raoul-Marc Génard et qui était resté, comme moi, absolument consterné de le voir donner des interviews à Minute. Et puis, lorsque j'ai re-eu à connaître de ses faits et gestes quelques années plus tard, j'ai vu que non seulement il n'avait rien entendu, mais qu'il avait dérivé encore plus loin et qui maintenant il frayait avec Soral et sa joyeuse bande de Boy Scouts. Il s'en est suivi une correspondance tout à fait substantielle dans laquelle je lui ai expliqué qu'il était en train de se perdre idéologiquement et même personnellement et que s'il n'y faisait pas attention, rien ne serait plus possible. Et je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Beaucoup de personnes l'ont fait également. Et comme il n'a rien voulu entendre, il s'en est suivi ce qu'il devait s'en suivre. C'est-à-dire une rupture catégorique et définitive. Donc moi, la référence à Chouard, si tu veux, j'ai plus de problème avec ça. Et cette histoire est derrière moi depuis de nombreuses années.
Bonjour Étienne.
Bonjour Julien.
Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est dans le sud de la France. Alors, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas.
Moi, je suis prof à Marseille. Et donc, ça fait 10 ans que je travaille de plus en plus intensément sur ce que j'appelle cette cause, que j'appelle une cause première, j'appelle ça la cause des causes, comme Hippocrate. Et j'en suis arrivé à... D'abord à la Constitution, puis ensuite à qui écrit la Constitution, puis en m'apercevant que c'est toujours les professionnels de la politique qui sont en conflit d'intérêts et qui écrivent des règles pour eux-mêmes, j'en suis venu à « mais comment se fait-il que ce soit toujours les professionnels de la politique qui écrivent ?» Je dis « mais c'est parce que nous les laissons faire. » Et pourquoi est-ce que nous les laissons faire ? Il y a pas mal de raisons possibles.
Merci Étienne.
Merci à vous.
Maintenant, pour moi, le mouvement qui est en train de s'esquisser, de se créer, etc., devrait être télescopique. C'est-à-dire devrait afficher une gradation d'objectifs du plus proche au plus lointain. Le plus proche, et on voit déjà qu'il n'est pas si proche que ça, hein, c'est d'en finir avec la loi El Khomri. Mais en effet, une fois qu'on nous en aurions fini avec la loi El Khomri, rêvons un peu, bis, il ne faudrait pas s'arrêter là, il ne faudrait pas rentrer chez soi. Il faudrait utiliser cette lancée et, dans la foulée, s'attaquer à d'autres choses. Je le disais, au monde qui engendre la loi El Khomri. Alors, le monde qui engendre la loi El Khomri, ça peut être compris, là aussi, de manière tout à fait graduée. À un bout du spectre, le plus lointain, là encore, c'est en finir avec le système capitaliste. Et puis, il y a des crans intermédiaires, qui est en finir avec la configuration néolibérale du capitalisme. Ça, c'est des étapes intermédiaires à franchir. Et alors là, à mon tour de ne pas être d'accord avec toi, parce que, et on va en venir là justement à la question du licenciement. Sur les objectifs, rendre les livres de compte des entreprises transparents. Mais cette idée de la transparence, c'est l'un des trucs qui reviennent le plus souvent, mais dans la bouche même des capitalistes et depuis très longtemps. Alors, le premier secteur où cette antienne de la transparence a été développée, mais alors ad nauseam, c'est la finance. On avait dit lors des crises financières de la fin des années 90, puis de 2001 avec Enron, « Ah, il y a des crises parce que c'est pas transparent. Si on rendait transparent, il n'y aurait plus de crise. » Mais rien du tout. La transparence n'ôte rien aux mécanismes fondamentaux de la finance et ne les empêche absolument pas de jouer. Si bien que nous avions des désastres dans l'opacité, nous avons maintenant, en 2007, des désastres dans la transparence. Donc la transparence, à mon avis, ne changera pas grand-chose à l'affaire. Quant à l'interdiction de licenciement, alors là aussi, pour moi, c'est précisément le mot d'ordre à problème. Parce que ça, c'est un mot d'ordre qui est suspendu en l'air et qui n'est pas rapporté à ces conditions réelles d'effectivité. Et c'est là qu'on en vient vraiment à la question de revendiquer ou pas revendiquer. Mon point, si tu veux, c'est que, en forçant un peu le trait, je l'admets, hein, mais quand même, pour aller au cœur de l'argument, lorsque les néolibéraux disent le fameux slogan « Tina, there is no alternative », eh bien, ils ne sont pas loin d'avoir objectivement raison. Ils ne sont pas loin d'avoir objectivement raison parce que, précisément, ils ont préalablement configuré le monde de structures qui leur donnent raison. Lorsque tu as installé le pouvoir actionnarial, donc tu as fait la déréglementation financière, tu as organisé le libre-échange sans frein, la possibilité de délocaliser, tu as créé l'euro austéritaire avec son étau de politique économique, en effet, tu as créé les conditions telles que la masse salariale est devenue la variable d'ajustement. Et donc, aussi bien par le volume de l'emploi que par le niveau ou le rythme des salaires. Si bien que se donner pour mot d'ordre interdire les licenciements ou pour un meilleur partage des richesses, qui est une chose qu'on entend si souvent dans les cortèges, est à mon avis un mot d'ordre qui manque tout à fait de consistance à partir du moment où on ne se donne pas explicitement pour projet de défaire les structures qui ont rendu à peu de choses près inévitable l'ordre néolibéral tel qu'il fonctionne. Et c'est bien pour ça qu'il faut faire remonter l'effort politique d'un cran pour mettre en question ces structures-là qui sont ce dont tout découle, ce dont tout procède. Et moi, ce qui m'impressionne, je vais te dire, c'est que les capitalistes, en fait, sont de grands marxistes structuralistes à l'état pratique. Ils savent où se joue le jeu. Ils savent à quel étage le jeu se joue pertinemment. Ça se joue à des niveaux lointains où se configurent des structures abstraites qui ne donnent pas prise immédiatement à l'effort de la revendication ou de la contestation politique et qui sont le FMI, la Commission européenne, la Banque des règlements internationaux, l'OCDE, l'OMC, etc., etc. Et lorsque tu agences le cadre à ce niveau-là, tout s'ensuit presque fatalement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un peu de marge par-ci, par-là, hein, je ne dis pas ça. Mais quand même, l'essentiel ou presque est joué.
Jean-Pierre ?
Voilà, gros désaccord.
Allons-y, on est là pour ça.
Gros désaccord. Si tu veux, quand tu dis qu'aujourd'hui, la masse salariale, c'est la variable d'ajustement, et ça découle des traités européens, de l'euro austéritaire, de TAFTA, j'imagine, etc. Voilà. Non, la masse salariale, à la naissance du capitalisme, c'est la variable d'ajustement. Ça a démarré comme ça, pour que le patron face du profit, il a deux variables sur lesquelles il joue. Il joue sur la charge de travail, la productivité à faire augmenter, allonger le temps de travail ou diminuer le salaire. ni plus ni moins. Et ça, depuis le début. Il n'y a pas eu le traité européen, il n'y avait pas l'euro à l'époque, et pourtant, au XIXe siècle, bah, le capitalisme il était là, et sur le fond, c'était exactement les mêmes attaques. Et c'est là où, politiquement, on diffère, on a une grosse frontière, c'est que à t'entendre, il suffirait qu'on gagne sur TAFTA, on gagne sur le soi-disant libre-échange, etc., pour que ça aille mieux, qu'on gagne sur l'euro. Voilà, il n'y a plus d'euro, comme si, sous le franc, on était heureux. Comme si, sous le franc, les travailleurs, ils avaient la belle vie, et puis on n'avait aucun problème. Non, c'est... Et ça, c'est masquer les vrais responsables de cette société. Tu sais, avant la Banque de France, le conseil d'administration de la Banque de France, c'était les 200 familles. C'était mieux ou c'était moins bien que la Banque Centrale Européenne. C'est toujours les mêmes qui se font du fric, et c'est toujours les mêmes qui triment. Voilà. Alors, la situation s'est aggravée, parce que le système capitaliste est en crise, et que les crises sont de plus en plus graves, parce qu'il est de plus en plus sénile. Elle est là, l'explication. Et du coup, ça masque les vrais responsables. Et je peux pas m'empêcher de me dire pourquoi on ne montre jamais du doigt la famille Peugeot, les Bettencourt, les Bernard Arnault, etc. Pourquoi on montre jamais ces gars-là? Pourquoi on ne les désigne pas comme les vrais responsables de la situation, puisque tout leur appartient? Et pourquoi on est obligé de parler de l'euro, de la Banque Centrale Européenne, de TAFTA, de Maastricht et compagnie? Alors, c'est parce que, d'une certaine manière, alors je ne vais pas dire on veut les protéger, je te fume une fleur, je ne dirais pas ça, mais c'est une manière de les protéger quand même. Après, sur la transparence, je crois qu'on ne parle pas de la même transparence. Moi, quand je parle de la transparence des comptes des grandes entreprises, c'est que les employés, les comptables, les ouvriers, l'ensemble des salariés d'une entreprise, ils aient imposé le droit de mettre leur nez dans la comptabilité et dans le fonctionnement à tous les étages de l'entreprise. De pouvoir contrôler les décisions. Alors, contrôler les décisions, ça veut dire d'abord les connaître. Et c'est ça la transparence. La transparence sur le fonctionnement des entreprises, sur les décisions, sur les conseils d'administration.
T'es en train de parler d'autogestion, là.
Un contrôle démocratique de l'entreprise.
Exercer un contre-pouvoir à l'intérieur des entreprises, sur l'ensemble de la société, pour que chaque décision ne puisse pas être prise unilatéralement par les conseils d'administration et que les travailleurs puissent se mobiliser. Alors, imagine bien, et ça je pense que tu l'imagines bien, qu'une telle situation... Bien sûr, c'est dans une mobilisation générale, continuelle, où le rapport de force, il est là, carrément.
Ce qui n'est pas le cas actuellement.
Ce qui n'est pas le cas du tout actuellement. Mais que le rapport de force, il serait du côté de la classe ouvrière. Et sur l'interdiction des licenciements, c'est des objectifs de lutte. Des objectifs de lutte qui permettraient de faire mûrir la conscience de classe, qui permettraient de donner confiance dans la force collective des travailleurs, qui puissent avoir confiance dans leur propre force. Et du coup... qui comprennent qu'il ne faut pas s'en remettre soit à un sauveur suprême, soit à un texte constitutionnel suprême qui réglerait tous les problèmes.
Nous protège,
nous ne bougerons pas.
Le syndicat nous protège,
nous ne bougerons pas.
Il nous protège et notre union protège notre syndicat. Que l'on recule,
nous ne bougerons pas,
nous restons là, c'est toi notre misère qui reculera.
Frédéric ?
Alors pour le coup, c'est moi qui me méfie de l'idée du contre-pouvoir des salariés dans l'entreprise. Puisque, comme tu sais, il y en a eu une esquisse, en tout cas dans les grandes entreprises, ça s'appelle les administrateurs salariés. Et on voit ce que ça donne. Et ce n'est pas seulement une question de nombre, hein. C'est une question beaucoup plus insidieuse. C'est que les administrateurs salariés, donc des salariés qui sont délégués pour être présents au conseil d'administration, se retrouvent assis aux côtés d'administrateurs capitalistes. Et l'expérience montre que, en général, ils se laissent pénétrer par l'institution bien plus qu'ils ne pénètrent l'institution du conseil d'administration. C'est-à-dire, pour pouvoir leur parler, ils se soumettent à des exigences de crédibilité, donc de respectabilité. Ils commencent à parler comme eux, à importer leur logique, et à la fin, ils finissent comme eux. Donc, ce n'est pas une question de contre-pouvoir des salariés, c'est une question de pouvoir tout court des salariés. Et c'est ça, véritablement, la sortie du capitalisme. Alors, là où moi, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que, bien sûr, pour moi, l'objectif d'en finir avec le mode de production capitaliste est un objectif. Ceci est tout à fait clair, qui est plus simple à dire qu'à penser véritablement. Hein. Mais disons d'en finir avec ce que Bernard Friot appelle la propriété lucrative. Ça, c'est un objectif qui est apporté, je veux dire, dans un horizon vraiment très long, hein, mais c'est vraiment quelque chose à mettre à l'agenda du salariat. Maintenant, pour le coup, à moi de retrouver le sens des objectifs moins lointains et peut-être plus atteignables. Car lorsque tu dis la réduction de la masse salariale au statut de variable d'ajustement, ça a toujours été le jeu du capitalisme, non, là je ne suis pas d'accord. Historiquement, ceci me semble inexact. Oui, le tout premier capitalisme, qui était un capitalisme extrêmement libéral, sauvage, etc., avait des propriétés dont certaines ressemblent au capitalisme d'aujourd'hui. Je pense surtout, disons, plutôt au capitalisme des 20 premières années ou des 30 premières années du XXe siècle. Mais il y a eu une parenthèse assez étonnante dans le capitalisme qui, en fait, voit se succéder des configurations. Le capitalisme n'est pas toujours le même, il change dans le temps. Donc, son cours historique est séquencé en configurations qui ont des propriétés tout à fait contrastées. Et de 1945 à 1980, on a eu une autre sorte de capitalisme, qui était le capitalisme, je te l'accorde bien volontiers, et un capitalisme qu'on reconnaît précisément à cette séquence du film « Reprise ». Voilà, oui, ça n'était pas rose pour le salariat, en effet. Mais en même temps, il est objectif de dire également que la condition salariale a changé pendant ces années. Et que, alors d'un point de vue macroéconomique, la volatilité des salaires était bien moindre et leur progression bien plus régulière et bien plus intense que ce qu'elle est maintenant.
Donc, c'était le plein emploi, quand même.
Et c'était le plein emploi. Donc, ouais. Moi, je ne suis pas en train de faire un numéro passéiste pour rembobiner l'histoire et revenir au fordisme. Ça serait absurde à tous les titres, parce qu'on sait très bien quelles étaient les tares du fordisme. Elles étaient localisées dans les conditions du travail ouvrier, et puis on pourrait ajouter également dans la méconnaissance profonde des enjeux écologiques. Donc, il n'est pas question d'en revenir à ça. Mais en même temps, il faut savoir en voir la particularité, et il faut bien voir que la transformation des structures d'une configuration à l'autre du capitalisme a profondément altéré ses propriétés. Par ailleurs, tu dis il faut montrer les vrais responsables Arnaud, Bettencourt, Peugeot, etc. Eh bien moi je vais te dire, tu enlèves Arnaud, tu enlèves Bettencourt, tu enlèves Peugeot et tu enlèves tous leurs semblables et tu as toujours le capitalisme. Voilà pourquoi. Tu te souviens peut-être du film...
Voilà pourquoi Ruffin...
Tu te souviens peut-être du film de la bande Groland, Louise Michel. C'est un film vraiment super. L'histoire, c'est il y a une entreprise qui ferme, alors ils vont choper le patron, ils veulent lui faire la peau d'ailleurs. Hein. Ils partent avec le propos délibéré d'écarrir le patron. Quoi. Et puis ils tombent dessus, ils disent mais non, moi je suis un pauvre sous-traitant, il faut aller voir le donneur d'ordre. On va voir le donneur d'ordre qui dit mais moi je suis une filiale, il faut aller voir la maison mère. On va voir la maison mère qui dit mais moi je suis sous le contrôle de mes actionnaires, ils sont à Guernesey. On va à Guernesey, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une boîte aux lettres et il n'y a rien dedans, évidemment, c'est un paradis fiscal. Le film s'arrête là, mais s'il avait continué, il nous aurait fait traverser c'est l'océan, on serait allé à New York voir le fonds de pension. Et le fonds de pension, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ah mais moi je suis le mandataire de mes mandants. Et c'est une population de petits épargnants qui ont toute leur retraite placée dans mon fonds de pension. Et c'est pour ça que j'investis et que je demande le plus gros taux de rendement. Et c'est ça, si tu veux, l'accomplissement suprême du capitalisme sous sa forme financiarisée. C'est pour ça que moi, depuis 20 ans, je me bats contre les fonds de pension et tous ces trucs-là. C'est que ça fait que le système se boucle et que le serpent se mord la queue et que les salariés s'asservissent à leurs propres frais au travers de toutes les médiations du système financier. C'est un bout des salariés qui veulent leur retraite. qui, au travers de toutes ces formes institutionnelles, finissent par asservir les salariés qui sont en activité pour leur faire cracher la plus grande rentabilité financière. Donc, on peut se débarrasser des très gros capitalistes qui sont en gros les figures pour le stand de Chamboultou à la Foire du Trône, mais ça n'ôte pas la logique profonde du système. Et cette logique profonde, là, en l'occurrence, actuellement, elle réside dans les structures du capitalisme financiarisé. C'est une affaire de structure plus que de bons hommes.
Jean-Pierre,
bon, on est sacrément en désaccord. Mais là, c'est bien, parce que plus la discussion a lieu, plus on voit le fossé. Écoute, je peux pas te laisser dire ça. C'est encore bien pratique pour dédouaner encore une bourgeoisie qui est en chair et en os. Excuse-moi, il y a une origine. Il y a une origine physique derrière la bourgeoisie. C'est pas des traités, c'est pas des structures économiques, c'est pas des idées, c'est pas c'est des hommes et des femmes qui sont des familles en chair et en os et qui dirigent le monde. Voilà, ça c'est ma conviction profonde parce que je suis marxiste. Voilà, et c'est si tu veux l'économie, tu comprends, il y a quand même la propriété privée des moyens de production, ça appartient à des hommes, et même si c'est derrière des associations, des structures, des fonds de pension, il y a des bonhommes derrière. Bon, après, sur le contre-pouvoir, tu m'as mal compris, et je commence à comprendre pourquoi tu m'as mal compris. Parce que je crois que tu peux pas t'empêcher, en tout cas, tu comprends pas que pour moi, ceux qui doivent exercer le pouvoir, c'est l'ouvrier de base, c'est l'employé de base, c'est le travailleur, c'est celui qui travaille avec ses mains ou avec sa tête. Et ce n'est pas le délégué syndical, l'administrateur. Bien sûr que cette grande fable des comités d'entreprise, des administrés salariés, etc. Alors on va discuter du nombre de sièges qu'on donne aux représentants du personnel qui vont siéger dans les conseils d'administration. Et ils vont peser ou ils ne vont pas peser. Tout ça, c'est une fable. Pourquoi ? Parce qu'on ne touche pas à la propriété privée exacte des usines, des entreprises. Moi, quand je te parle d'un contre-pouvoir, c'est un contre-pouvoir qui est exercé par la population, par les travailleurs. Et parce que eux, ils savent tout.
Mais c'est un pouvoir tout court, du coup.
Mais oui, je te parle du contre-pouvoir parce que ils l'ont pas encore pris à ce stade-là. Alors c'est un débat qui est quand même très très théorique, on l'admet, mais qui a son intérêt parce que c'est où est-ce qu'on place sa confiance ? Moi, je place ma confiance inébranlable parce que c'est la seule force sociale qui est capable de changer les choses, c'est les travailleurs. Et c'est à eux de prendre en main l'ensemble de la gestion de la société.
Je voudrais qu'on évoque les élections américaines. On a vu, surprise, un type apparaître, Bernie Sanders, qui se dit socialiste, et on voit qu'il y a une poussée formidable derrière ce gars-là. Toute la jeunesse américaine est avec lui, il est majoritaire dans ce pays, c'est tout à fait inattendu pour nous qui sommes si mal informés de ce qui se passe réellement aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Dans le cadre actuel des élections américaines, Bernie Sanders va perdre. Il n'y a que nous qui considérons qu'il a déjà gagné. La pacification considère qu'il a déjà gagné pour la raison que je viens d'évoquer. Donc, on voit bien qu'il va perdre. On voit bien que c'est probablement, très probablement, Hillary Clinton qui va prendre le pouvoir. Elle va modifier quelques petites choses à l'intérieur du parti démocrate. Il y aura peut-être quelques géraniums en plus à la fenêtre du parti. Il aura peut-être une petite niche quelque part, le Bernie Sanders. Et puis voilà, l'histoire, on en restera là. Donc, je crois que c'est ça un peu ce que Lordon essaye de faire passer depuis des années. C'est qu'à l'intérieur de ce cadre-là, on ne peut pas agir. C'est cuit. C'est-à-dire que cet élan réel de la jeunesse américaine, que ce soit les ouvriers, que ce soit les étudiants, peu importe, toi, c'est toute une classe, une catégorie, eh ben, qui va se faire avoir dans ce cadre-là. Je crois qu'effectivement, c'est là qu'on se dit ben, il faut changer le cadre, et la question, elle est comment changer le cadre. Et je vous rappelle aussi une chose, hein, c'est la phrase qui a lancé Podemos. Je ne vais pas lancer Frédéric sur Podemos, mais il y a une formule qui est arrivée au début 2014 et qui peut s'appliquer à ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est comment transformer l'indignation en changement politique. Hein, c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. On est là pour ça. Comme cette indignation qui se manifeste actuellement, qui s'est manifestée aux États-Unis, comme je viens de l'évoquer, comment transformer cette indignation en changement politique ? Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Comment faire en sorte que ça aille plus loin et que ça gagne et que ça se transforme en force politique ?
En changement politique. tes ouvriers, quelle va être leur place là-dedans? Toi, tu veux les mettre en avance avec le tracteur de cette histoire-là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais comment on organise ça? Comment on procède? On veut la solution tout de suite, monsieur Mercier.
Tout d'abord, il faut quand même se remettre dans le contexte et se rappeler que ça fait 4 ans, 5 ans si on rajoute les années Sarkozy, qu'on en prend plein la figure et qu'on subit attaque sur attaque et que les fameuses centrales confédérales n'ont jamais appelé, ne serait-ce que le corps militant, à répondre sérieusement et ne serait-ce qu'à descendre dans la rue pour dire non. Voilà, quand tu vois Hollande, on a eu la loi Macron, on a eu l'ANI, on a eu la loi Rebsamen, on a le pacte de responsabilité, on a eu tout un... Enfin, on a payé très cher ces 4 ans de Hollande. Et moi, je suis convaincu que si ça avait été Sarkozy qui était resté au pouvoir, les centrales syndicales auraient appelé un peu plus sérieusement à descendre dans la rue.
Voilà. Il est presque au même degré d'exécration que Sarko maintenant,
même
Hollande.
Pire, oui, c'est ça. Même pire. Mais aujourd'hui, il y a le corps militant qui a repris des forces, qui a repris courage, qui descend dans la rue, ça mord plus ou moins sur le reste des travailleurs, plutôt moins que plus pour le constat qu'on en fait aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense que même ça peut rebondir. On milite tous, les uns et les autres, pour que ça gagne, pour marquer des points, poser des jalons pour l'avenir. Ça, c'est évident. Maintenant que cette exaspération, elle se transforme politiquement, oui, il va en falloir des luttes. Des luttes conscientes, déterminées, en sachant réellement contre qui on se bat, et pour quels objectifs on se bat. Et moi, je n'ai pas envie d'appeler les travailleurs, de leur proposer de se battre. Peut-être que tu vas me dire que je fais une fixation sur les traités, sur la Constitution que tu mets en avant, mais ce n'est pas ça des objectifs de lutte. Des objectifs de lutte, c'est quelque chose sur lesquels...
C'est des horizons plus lointains.
Sur lesquels...
On est quand même capable de penser à un truc qui est là, puis à un truc qui est là-bas quand même,
bien
en
sûr,
même temps.
Ouais. Bien sûr. Et sur le fond, sur ce que tu disais, sur la notion de revendication, je pense qu'on est d'accord. Oui. Revendiquer, pour moi, c'est d'abord commencer par lutter. Et bien sûr que si on se cantonne dans les limites de la revendication, ne serait-ce que l'interdiction des licenciements. Même si on imposait l'interdiction des licenciements aux patrons, qu'on les empêchait de licencier, et qu'on leur imposait l'embauche de tous les jeunes précaires, de tous les jeunes intérimaires et tous les jeunes chômeurs, qu'on ne changerait pas encore le système, on n'en serait pas encore là. Pour changer le système, pour faire péter le cadre, comme tu dis, moi je vois qu'une seule solution. Alors, c'est un mot d'ordre, mais une seule solution, la révolution. Bien sûr. Et ça, c'est un
une
mot.
Une seule solution, la Constitution. Et c'est le même. Mais c'est le même.
Non.
Mais c'est ce que je t'ai dit, Jean-Pierre.
Non. La Constitution, moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est la finalité.
Je le fais. Je le fais. Je le fais pour te.
Tu te souviens du film Le Guépard? Le film Le Guépard.
Mais tout changer, oui, pour que rien révolution. Ne change,
voilà.
Bien sûr.
C'est changer pour
mais
que
évidemment. Mais
tout change.
Attendez, on va quand même donner la citation à ceux qui ne sont pas aussi érudits que vous, les gars. C'est que tout change pour que rien ne change. C'est
voilà, ça, là. On change la Constitution, on change la façade pour que derrière,
oui,
rien ne change.
Évidemment.
On n'a pas les mêmes mots, mais je pense qu'on a la même idée. Mais derrière, je pense qu'on n'a pas la même finalité. Moi, mon objectif, la perspective grande, lointaine que je défends, c'est que les travailleurs y prennent le pouvoir politique pour changer fondamentalement la société et pour virer les Peugeot, les Bétancourt. Parce que je t'assure qu'ils existent, en chair et en os.
Oui, je sais bien qu'ils existent. Je le sais parfaitement qu'ils existent. Mais ce sont des... Pour le coup, tu vois, tu te revendiques marxiste, tu as bien raison, hein, moi aussi. Même si mon marxisme est tout à fait hétérodoxe, sans doute plus que le tien. Mais la grande avancée de pensée de Marx, c'était précisément d'avoir mis en évidence qu'il fallait détourner le regard des individus et voir les structures dont ils sont l'incarnation en personne en quelque sorte, et qu'il faut pas oublier de voir ces structures derrière les individus. Ce qui fait qu'on peut dessouder les individus, on peut les enlever, etc. Si les structures restent, d'autres viendront les remplacer. Qui est des individus derrière les structures? Mais Jean-Pierre, évidemment, j'en ai autant conscience que toi. Lors de ce débat public de la semaine dernière à la Bourse du Travail, Serge Halimi a fait une intervention qui nous rappelait à quelques robustes vérités sociologiques et politiques. Nous avons en face de nous une classe consciente de ses intérêts, mobilisée
organisée.
Et organisée. Voilà, c'est pas...
Mais ça, Mercier le sait. Ça.
Ah ben ça, je sais qu'il le sait. ça, je sais qu'il le sait. Et qu'en ça... effet, si on n'a pas nos formes d'organisation à nous en face, c'est touché coulé.
Tu as parlé de 36. Le Front populaire, il y avait quand même des gens qui, a priori, n'étaient pas d'accord. Ça allait du centre-gauche à la CGT, la CGTU, si j'ai bonne mémoire. C'était quand même un front un peu hétéroclite, le Front populaire.
Okay.
Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, de construire un front commun avec des gens qui sont plus ou moins d'accord, ou bien pour toi il y a des trucs rédhibitoires, on ne discute plus avec ces gens-là. C'est
si, ton exemple il est intéressant sur le Front populaire des années 30, parce que c'est ils ont réussi à arrêter un formidable mouvement de grève de fond très déterminé, très profond, pour le faire aboutir dans une impasse. Et après, ce même Front populaire, dans sa très très grande majorité, qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Voilà, donc moi j'ai pas envie de rééditer ça. Et si tu me demandes ce qui manque politiquement aujourd'hui en France, oui, c'est que les travailleurs, ils aient un vrai parti à eux, un parti ouvrier, qui défende leurs intérêts politiques. C'est ça qui manque aujourd'hui.
Frédéric, là-dessus, toi,
oui,
un front commun, front populaire, c'est pas tellement ton registre, mais enfin quand même, on va bien déboucher là-dessus. On demande, mais quel peut être le débouché politique de cette histoire-là?
Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Ma hantise, en tout cas, elle va contre les gaspilleurs d'énergie politique. Il y a des énergies politiques qui se lèvent et on les envoie dans les sables. Ça me rend dingue. Bon, j'ai des exemples plus récents que le Front populaire. Il y a évidemment le mouvement des retraites en 2010. Mais il y a eu presque pire que ça. Tu te souviens évidemment de ces deux grosses manifs qui ont eu lieu début 2009, en janvier et en mars. Ce sont des manifs qui étaient vraiment, alors là, des espèces de coups de colère collectifs, mais monumentaux, il y avait eu des millions de personnes dans la rue, et qui étaient consécutifs au scandale absolu de la crise financière et du sauvetage des banques sans contrepartie. Bon, là, il y avait une énergie qui était en demande de finalisation vers des renversements structurels et institutionnels de taille, et à qui on a servi des mots d'ordre à peu près aussi insipides que la déclaration là, de l'intersyndicale, tu vois, et en deux coups de cuillère à peau, c'est-à-dire en deux manifs, le truc a été évaporé. Et ça, moi, ça me rend fou. Alors, la contradiction qui se pose à nous est la suivante. Comment éviter les deux termes désastreux de l'alternative? Le premier qui est l'improductivité, ça donne rien. Et le deuxième qui est le retour à l'écurie électorale. Où là, on est bien certain que rien ne pourra se passer. Et tu vas me trouver un peu obsessionnel ou taquin, mais c'est pour ça également. C'est un autre argument pour lequel j'en revenais à cette idée de réécrire une constitution. Parce que, me disais-je, pour sortir de cette tenaille entre rien et le retour aux institutions, une solution possible, c'est refaire les institutions. Mais là encore, en les comprenant extensivement, c'est-à-dire l'institution particulière qu'est la constitution, institution juridique, mais en réalité, toutes les institutions du capitalisme et en particulier la propriété lucrative. Quant à la question des mobilisations sous Hollande, mais ça, évidemment, c'est ça qui est tragique. Moi, j'étais venu chez toi, Daniel, au Métallo, tu t'en souviens, essayer de défendre la thèse paradoxale, mais que je crois vrai, que Hollande, c'est pire que Sarkozy. Parce que du point de vue des contenus substantiels de politique économique, c'est pareil. À ceci près qu'on continue de mettre une étiquette de gauche, ce qui est délirant quand on y pense sur ce gouvernement, et que ça frappe d'anesthésie tous ceux qui d'habitude descendent dans la rue beaucoup plus facilement quand c'est un gouvernement de droite. Donc on y a perdu sur absolument tous les tableaux.
Mais je crois qu'il faut qu'on change aussi, il serait temps qu'on change aussi notre mode de raisonnement et pas mettre la frontière entre la droite et la gauche. Pour moi, ce gouvernement, il est de gauche. Il se revendique de gauche. Il est de gauche. J'y peux rien. Je peux pas lui enlever ça.
Moi aussi.
Et écoute, c'est comme ça. Hollande, il est au Parti Socialiste. Qu'est-ce que tu veux? Mais peut-être qu'il faut qu'on mette la frontière entre un gouvernement qui défend les intérêts des patrons, que tu pourrais appeler libéral ou néolibéral, et un gouvernement qui défendrait les intérêts des ouvriers, et classer les partis politiques avec cette frontière.
Jean-Pierre, quand tu dis les ouvriers, les salariés, etc., tu parles des gens qui sont au boulot.
Non, pas que.
Ceux-là, ils ont une force, effectivement, c'est la grève. Voilà. La grève, c'est l'arme des travailleurs. Mais
les chômeurs, qu'est-ce que tu en fais dans ta lutte, là?
On impose l'embauche. Écoute, c'est quand même facile à imaginer. Alors, je sais que, OK, on en est très, très loin. Mais imagine l'économie qui s'arrête. Le pouvoir, il est où? Il est entre les mains de ceux qui fabriquent la richesse. Les travailleurs. À partir de là, organisés, déterminés, conscients de leurs intérêts, ils peuvent imposer un paquet de trucs,
mesures. Grève générale, ton truc, c'est la grève générale.
Oui, bien sûr, la grève générale. Mais c'est pas tout. La grève générale, une forme de lutte, une forme de mobilisation. Mais tu sais, pendant la Commune de Paris, ils n'étaient pas en grève. Ils bossaient. Ils faisaient tourner la capitale. Mais ils faisaient tourner la capitale pour le bien des habitants, des ouvriers parisiens. avec le fusil à la main, et puis il y avait le boulanger qui faisait son pain. C'est comme ça que ça se faisait, c'est comme ça que ça s'organisait. Et il n'y avait pas besoin de constitution.
Mais tu vois bien que ce que tu viens de faire, là, toi-même, c'est de reconnecter la revendication, entre guillemets, de l'obligation d'embauche, la loi d'interdiction des licenciements, à quelque chose qui est de l'ordre d'une transition révolutionnaire. C'est, voilà, tu vois. Donc,
je suis d'accord. Je suis d'accord,
Je
te disais, c'est une polémique dans un verre d'eau.
D'accord, oui. Alors
mais
que...
elle était provocatrice, et moi, je ne suis pas provocateur. J'ai trop conscience de la difficulté de faire prendre conscience à mes copains de boulot qu'il faut revendiquer, il faut relever la tête, il faut se mettre debout. Et même la plus petite revendication du combat quotidien dans une usine, elle est importante. Donc quand j'ai entendu ça, forcément, moi, ça m'est sorti des boutons. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux. Moi, j'entends revendication comme un objectif de lutte.
Mais tu vas voir, du coup, ça va être un contre-emploi parfait. Mon point était de produire, par la force de la formule, une espèce de déclic pour donner davantage d'impact au message suivant, qui est que, mais on en a parlé au début de notre discussion, il faut sortir de cette logique des luttes locales et défensives où on part les balles depuis 30 ans et tous les 4 matins, il y en a une nouvelle qui nous arrive dans les pieds et dont il faut qu'on se débrouille. Bon. Il faut sortir de ce registre défensif pour rentrer dans un registre offensif, et si on le comprend de manière conséquente, ce registre offensif, il n'est plus à proprement parler celui de la revendication, il devient un registre davantage politique au sens plein du mot. Mais Pierre Rimbert du Diplôme a fait la remarque suivante, toujours très futée, hein, en me disant « Tu as été maladroit. Au lieu de dire « Nous ne revendiquons rien », tu aurais mieux fait de dire « Nous revendiquons tout ». Et c'est vrai que ça aurait sans doute... Mais tu vois bien, le « Nous ne revendiquons rien » est en réalité équivalent à « Nous revendiquons tout ».
En 68, on avait deux mondes hein, qui se sont pas tellement mélangés. Hein. Il y a eu le monde étudiant et puis le monde syndical, le monde des travailleurs. On a un peu ça de façon différente cette fois-ci. On a un autre élément hein, aujourd'hui, c'est les quartiers. C'est ceux des quartiers qui ne viennent pas. C'est ce qu'on déplore à longueur d'assemblées, à longueur de monologues sur la place de la République. On dit que font les gens des quartiers. Or, ceux des quartiers, c'est les gars d'Aulnay. Voilà, hein. Ils sont dans le film de Françoise Davis et on voit très nettement que tes copains, tes collègues, tes confrères sont tous des gars issus de l'immigration. Ça se voit là, pour le coup physiquement. Et là, ils se battent. Il n'y a absolument aucune différence entre toi qui es un bon blanc avec comme il faut, et eux, ça se mélange totalement. Sauf que maintenant, la boîte est fermée, que ces gars-là qui avaient réussi un peu à se débrouiller dans la vie, peut-être avoir le petit pavillon, le petit machin, etc., c'est la galère. Et là, on peut imaginer une certaine fermeture, un retour ou un toboggan vers la mosquée. Il y a quand même des gros soucis dans les quartiers. Il y a quand même des gros soucis. En tous les cas, ils ne sont pas place de la République. Si les travailleurs n'y sont guère, les quartiers n'y sont pas.
Oui, voilà, c'est vrai que les quartiers, ils sont dans les usines, ils sont dans les entreprises, ils sont là où il y a du boulot pour pouvoir vivre, parce que c'est le système qui veut ça, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que, bah oui, les quartiers, il faut aller là où ils sont, hein, c'est-à-dire dans les usines de banlieue, les grosses usines automobiles, mais pas que, là, à Compiègne, ils m'ont appelé, c'est 600 jeunes, alors moins de 30 ans, issus de l'immigration, mais pas que, il y a un formidable mélange aussi là-dedans, ils sont en grève pour les salaires, c'est une centrale d'appel qui bosse pour EDF, entre autres, etc., ils sont en grève pour les salaires, une lutte offensive. Ça fait maintenant 2 semaines qu'ils sont en grève, ça se bagarre. Et copains, comme tu dis, l'usine a fermé, bah, je pense que ceux qui ont retrouvé du boulot, ils ont appris énormément dans cette grève, dans cette lutte, et j'espère qu'ils vont être des militants ouvriers qui vont pouvoir transmettre tout ce qu'ils ont appris pour pouvoir recommencer et pouvoir gagner. Maintenant, on est dans une mobilisation et je pense que Frédéric et moi, on fait tout pour que ça avance, pour que ça progresse, pour que ça se renforce, parce qu'on a besoin de succès, c'est évident, mais on a besoin aussi de faire la démonstration qu'on est capable de manifester, on est capable de résister, on est capable de dire non, et qu'on n'en veut pas de cette loi, et qu'on n'en veut pas de toutes ces attaques. Maintenant, si tu veux, moi je reste convaincu que c'est dans les entreprises où ça va jouer sur le fond, c'est là où ça va passer, où ça va casser. Moi je fais en sorte que ça puisse passer un jour, comme on dit, et pour ça on est trop peu nombreux à militer dans les entreprises politiquement, à défendre cette idée fondamentale qu'on ne peut compter que sur nos propres forces pour changer la vie. Et la seule manière de changer les choses, c'est de bouleverser le jeu pour que cette société, elle change de fond en comble.
Conclusion, vrai que tu parles un peu des quartiers, si tu veux.
Bah oui, parce que j'ai été sensible à ce que tu as dit. En 68, il y avait deux mondes, aujourd'hui, il y en a trois. Et déjà, le problème n'était pas simple à l'époque, il l'est encore moins aujourd'hui. Je pense que la convergence des luttes ne sera pas complète si nous ne parvenons pas à réunir ces trois fractions du monde social. Voilà. Et en revanche, je pense que leur réunion serait au principe d'une force irrésistible. Ça balaye tout. Maintenant, on voit bien que le monde social en question est constitué de sous-mondes séparés par des barrières invisibles. Moi, très vite, j'ai eu, je ne suis pas le seul, hein, parce que c'était tellement évident, j'ai eu le souci d'une espèce d'entre-soi social qui risquait de fermer portes et fenêtres et de se regarder le nombril à la place de la République. Et je pensais que c'était vraiment un très grand péril et qu'il fallait lutter contre ça. Et en même temps, entrer en contact avec les salariés, les ouvriers, etc. Oui, mais il faut être sensible également aux manières des autres. C'est-à-dire, on ne va pas demander à des syndicalistes de la CGT de venir s'asseoir en tailleur.
C'est ce que disait Mercier tout à l'heure.
Venir s'asseoir le cul par terre à la place de la République et de faire comme ça.
C'est une marionnette.
Tu l'as dit. Donc, il faut respecter les pratiques, les formes de lutte, les formes d'organisation qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, et il faut trouver quelque chose pour que ça se rejoigne malgré tout. Et avec les quartiers, mais alors là, déjà, je parlais de barrières invisibles entre les deux premiers mondes, mais là, ce sont des murailles. Bon. Moi, je suis très ignorant là-dessus. Donc, c'est une demande d'auditeur. Hein. Tu vois, ça serait formidable que tu fasses venir des gens qui te fassent une cartographie des réseaux politiques, s'il en reste. Il y a eu longtemps le MIB, mais ça n'existe plus.
Il y a des beaux restes. Ça a été un grand moment. Il y a des très beaux restes. On est en train de faire une série de reportages sur le site que mène Dilatebi. Et on retourne, parce qu'on y est allé souvent, dans les quartiers où on trouve des lutteurs sociaux tout à fait formidables, qui ont de l'expérience. Mais c'est pareil, c'est ce que disait Merci en commençant. Si on arrive en leur donnant des leçons, bonjour, nous sommes... bonjour, je suis sociologue à Paris 8, oui. Je vous apporte la bonne parole. Sur cette place, il n'y a pas de rap, par exemple. Alors que dans les quartiers, on a fait un truc avec un gars qui s'appelle Fix, qui est excellent. Alors lui, c'est un vieux rappeur, il a au moins 35 balais, c'est un vieux. Mais il dit, le rap, c'est un peu fini, le hip-hop, c'est un peu fini, etc. C'est pas encore arrivé place de la République.
Si. Jamais sur France Inter. Il y a un gars qui s'appelle Simon, qui est à la commission animation. Ça fait un peu géo, mais c'est beaucoup plus sérieux que ça, et qui a ça très présent à l'esprit, crois-moi. Mais évidemment, ça, c'est l'un des canaux possibles. Et bien sûr, tout autant, la pire des choses, ça serait de commencer à aller prendre contact dans les quartiers sur le mode de l'ambassade missionnaire. Tu vois, là ça serait le désastre absolu, quoi. Ces gens n'ont pas attendu pour lutter, qu'on leur fasse signe. Donc, c'est plutôt à eux de nous dire quelles sont leur forme de lutte, de nous raconter ce qui se passe dans leur quartier, parce que nous, on en est bien ignorants. Mais je vois toutes ces difficultés, c'est parfois un peu déprimant. Alors, maintenant, il faut que... J'aurais attendu la toute fin de l'émission, mais il faut que je passe aux aveux. Je n'ai pas encore vu comme des lions. Non, je te jure.
Non,
c'est très mal. Je m'en fais moi-même le reproche à chaque nouvelle journée qui passe. Mais j'ai vu la bande-annonce. Et en voyant la bande-annonce, qui est quand même très courte, la chose qui m'a frappé immédiatement, c'est exactement ce qu'a dit Daniel. C'est-à-dire, la jonction, elle est là. Elle est faite. Elle est faite dans l'usine et dans la mobilisation des salariés indifférenciés.
Oui, sauf qu'elle est détruite maintenant. D'Aulnay, à chaque fois qu'il y a eu des vagues de licenciements dans ces quartiers-là, hop, on a vu une augmentation du deal. Oui. Les émeutes de 2005 sont complètement liées à des vagues de licenciements qui ont précédé. Oui. Ça, j'ai pas beaucoup lu ni vu ça dans la presse, ni sous la plume de nos éminents sociologues.
Jean-Pierre rappelait qu'il y avait 42 nationalités. Mmh. Et tu sais quoi, il y a eu un documentaire que tu n'as pas pu ne pas voir pour le coup sur France 3 sur le monde ouvrier. Mmh. Hein. Et il y avait des gens, des vieux de la vieille, qui parlaient de la mine et qui disaient exactement la même chose. Donc c'est quand même une grande constante, j'ai l'impression, du monde ouvrier, cet internationalisme de fait. Voilà, je me dis qu'au milieu de toutes ces difficultés, de tous ces obstacles qu'on a à vaincre, peut-être c'est là que l'espoir réside vraiment.
Merci à vous deux.
Merci à vous deux.